Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans la Covidienne sur les ondes de Radio Campus Angers. On se retrouve comme tous les soirs à 18h du lundi au jeudi pour discuter pendant une demi-heure de l'actualité locale. Et au programme ce soir, Sarah s'est chargée de la première partie. Elle s'est entretenue avec Floriane Dithière, copropriétaire depuis 2013 des Chemins de la Rose, situé à Douai-la-Fontaine. Ces chemins rouvrent prochainement pour la saison de floraison, où vous pourrez y trouver 13 000 rosiers et un millier de variétés. Après une pause musicale, vous découvrirez un entretien qu'a mené Clémence avec l'association Angers Jumelage. Cette association a lancé un carnet d'adresses pour mettre en relation les Angevines et Angevins avec les villes jumelles. Et on commence sans plus tarder. Bonne émission à toutes et tous.
Les chemins de la Rose à Douai-la-Fontaine, plus grande rosée des Pays de la Loire. 4 hectares, plus de 13 000 rosiers, un millier de variétés. De quoi vous en mettre plein les yeux en cette période de réouverture progressive. On en parle aujourd'hui avec Floriane Dithière, copropriétaire. Bonjour Floriane, merci d'être avec nous.
Bonjour.
On va commencer au début. En 1999, la famille Gay crée les chemins de la Rose, famille qui est également propriétaire du zoo de Douai-la-Fontaine et du zoo des Sables d'Olonne. Avec votre mari, vos représentants, prenez les chemins de la Rose en 2013. On parlera un petit peu après des 5 ans qui ont précédé cette date. Aviez-vous déjà une appétence pour les plantes? Est-ce que c'était déjà à l'époque votre domaine de travail ou est-ce que ça a été tout nouveau?
Alors, du côté de mon mari, Guillaume, il est issu d'une famille de rosieristes, des producteurs de rosiers sur Douai-la-Fontaine. Et donc, lui, il était avec ses parents au niveau de la pépinière et s'occupait surtout de la partie commerciale et la partie vente de rosiers sur Internet avec le site Pétale de Rose qu'il a créé en 2006. Et donc, il connaissait bien les rosiers. Moi, il m'a embarqué un peu plus dans cette aventure où je n'étais pas du tout de ce métier-là. Mais c'est vrai que déjà, en tant que jeune couple, on allait de temps en temps aider ses parents à vendre des rosiers sur des fêtes des plantes. Donc, c'était quelque chose qui me plaisait.
À quel moment est-ce que vous avez décidé de racheter cet endroit justement de vous lancer dans l'aventure?
C'est Pierre Guay qui est venu nous voir en disant qu'effectivement il voulait revendre le jardin et qu'il avait pensé à notre famille en tant que rosieriste. Il pensait que c'était intéressant qu'il y ait quelqu'un qui connaisse bien les rosiers pour reprendre le parc. Et puis, pourquoi pas des jeunes pour une longévité de cette roseraie. Et donc, on est allé revisiter pendant un été le jardin. Et puis, on a vu tout le potentiel qui pouvait y avoir en améliorant le parc et puis en diversifiant les activités au niveau de la vente, de la restauration, de la boutique.
Avant votre reprise, si je ne me trompe pas, le jardin était en location pendant 5 ans. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour la qualité du jardin? Comment est-ce que vous l'avez retrouvé? Il me semble qu'il n'était pas dans son état optimal.
Oui, c'est ça. Malheureusement, les personnes qui le louaient, enfin, qui le géraient pendant 5 ans avant nous, ont délaissé un petit peu le jardin. Et donc, la nature reprend très vite ses droits. Et il n'y avait plus qu'un jardinier pour s'occuper des 4 hectares et donc il faisait le minimum et ça va très vite pour que la végétation envahisse certains parterres, certains bosquets et puis il nous a fallu quasiment 4 ans pour le remettre en état et après continuer à l'améliorer.
C'est assez marrant parce que c'est donc la famille Gay qui a créé ce jardin et aujourd'hui c'est encore une affaire familiale, puisque vous êtes propriétaire avec votre mari Guillaume Dithière et que le père de celui-ci y travaille aussi à la recréation des roses initialement. Justement, quel travail ça a été de replanter ces roses disparues? Combien est-ce que vous en avez replanté depuis 2013, si c'est possible de quantifier?
Il y a eu plus de 1000 rosiers de plantés dans le jardin. Alors c'est vrai qu'il y a des variétés très anciennes où il ne restait plus que un ou deux pieds dans le parc, alors qu'il y en avait eu des dizaines de plantés à la création. Donc ça, on essaye de les maintenir vraiment au niveau de notre collection. Et puis, on ajoute donc nos créations Donc tous les ans, on a des nouvelles variétés qui arrivent sur le marché et donc elles sont aussi plantées dans le parc pour les présenter au public. Et certaines étaient même plantées avant notre arrivée, nous, à la roseraie. Ça nous servait aussi de jardin d'essai, hein, et voir un petit peu comment ces rosiers-là allaient se déployer, allaient être vraiment dans un jardin en grandeur nature.
Combien de personnes sont dédiées à vraiment l'espace jardin et à ces 13 000 rosiers, à ces 4 hectares aujourd'hui?
Alors, on a des jardiniers qui sont là uniquement en saison. Hein, on n'a pas tout au long de l'année. Après, tout au long de l'année, c'est nous qui travaillons dans le jardin. En saison, on a 4 à 5 jardiniers, vraiment sur une période assez courte finalement, qui commence au mois de mars. Mars-avril, c'est vraiment une période de grande préparation du jardin, avec l'entretien des parterres, du désherbage, la taille des rosiers, et puis tout ce qui va autour d'un jardin, hein, tombe de la pelouse, les bordures, tout un tas d'activités. Et après, une fois que le jardin est ouvert, à partir de mai, là, on va faire un roulement. Hein, donc, il faut à peu près une semaine et demie pour passer sur tout le jardin et donc continuer l'entretien du désherbage manuel, couper les fleurs fanées, après au fur et à mesure de la floraison.
Comment est-ce que vous entretenez ce jardin? Il me semble que vous mettez un point d'honneur à n'utiliser aucun produit chimique.
Oui, c'est ça. On a toujours été comme ça au niveau de la production des rosiers. Donc, effectivement, le désherbage, c'est manuel. Il n'y a pas de désherbant chimique. Pour traiter les rosiers, parce qu'on peut avoir nous aussi des maladies, on utilise des macérations de plantes qui vont nous permettre de tuer les pucerons et les maladies sur le feuillage. On est vraiment sur des choses très naturelles et on y tient vraiment. C'est pour ça aussi qu'on a des ruches dans notre jardin. Les abeilles et tous les insectes s'y plaisent énormément ici. On a une grande biodiversité.
Et en parlant de biodiversité, on peut aussi, je crois, y croiser d'autres animaux, des paons, des oiseaux évidemment, des taupes, des ragondins, et eux, vous les laissez complètement vivre leur vie.
Oui, alors les ragondins, on essaie de maîtriser tout ça, parce que le problème, c'est que ça casse les berges, hein, des étangs. Mais par contre, nos paons sont en grande liberté dans tout le jardin et font la joie des visiteurs, surtout à cette période où là, c'est la pleine saison des amours, donc ils nous font la roue plusieurs fois par jour.
Et d'ailleurs, petite anecdote, je crois qu'au tout départ, quand vous êtes arrivé dans le jardin, c'était un peu compliqué avec les paons et leur nombre.
Oui, effectivement, il y en avait plus d'une vingtaine dans le jardin. Les naissances n'avaient pas été régulées et donc chaque année, on peut avoir 2-3 panours. Et donc, si on ne s'occupe pas de les mettre dans d'autres jardins, c'est sûr que ça peut aller assez vite. Donc, il a fallu dispatcher un petit peu ces paons et on en a gardé 5 vieux mâles et une femelle, et là maintenant on fait des échanges avec d'autres parcs pour pas avoir de consanguinité et puis d'avoir des nouveaux, des jeunes paons prêts à séduire nos jeunes pannes.
On va essayer de plonger les personnes qui nous écoutent dans le lieu. Est-ce que vous pouvez nous le décrire un petit peu visuellement? Qu'est-ce qu'on y voit? Est-ce qu'on est plutôt dans un jardin à la française ou pas du tout? Qu'est-ce qu'on y voit?
Alors non, on est sur un jardin à l'anglaise. On n'a pas une vue d'ensemble sur tout le jardin. Donc c'est vraiment, il faut se promener et découvrir les espaces au fur et à mesure. On est sur un parc qui va être aussi arboré, donc on a des points d'ombre, des espaces qui vont être plutôt ouverts, et donc ça nous permet aussi d'avoir des points de vue différents. Et on a la chance d'avoir une des plus grandes tonnelles avec des rosiers lianes dessus. Donc là, pour l'instant, on aperçoit des millions de boutons. On a hâte qu'elle fleurisse. Elle fleurit du coup en mai-juin. C'est assez spectaculaire de voir toutes ces fleurs. Et puis après, donc, on a des petites allées. Les pelouses sont accessibles. Donc, il faut vraiment prendre le temps de déambuler un petit peu partout autour des différents parterres, des étangs, pour découvrir sa visite des chemins de la rose, qui va être différente entre chaque visiteur. Vous avez même des endroits où vous pouvez vous asseoir et puis juste contempler, écouter la nature. C'est assez sympa.
À la base, en 99, c'était surtout un conservatoire de roses pour les découvrir. Aujourd'hui, vous êtes vous-même producteur. Il y a aussi un espace de vente. Quelles roses est-ce qu'on peut retrouver à la vente?
Alors, on a bien sûr nos créations, notre collection de rosiers. Et puis après, des variétés anciennes et d'autres variétés modernes aussi, des buissons, des grimpants, les rosiers lianes qu'on trouve dans le jardin. Donc, les visiteurs peuvent prendre en note les variétés qui leur plaisent dans le parc et les retrouver à la vente tout au long de l'année en pot ou en racines nues à l'automne.
Vous en créez aussi pour des raisons spécifiques, par exemple en 2016 en l'honneur de Louis Gay, propriétaire initial, mais vous recevez également des demandes d'instituts, d'entreprises. Ça vous arrive souvent d'en créer spécifiquement pour ça?
Alors on ne les crée pas spécifiquement. En fait, tous les ans, on a des créations, on a des variétés. Et donc après, on cherche des partenaires, des partenariats pour les baptiser et porter le nom, effectivement, comme là de Louis Gay, où on a eu la Rose Festival d'Anjou qui a été baptisée en 2019. Cette année, on va avoir la Rose du Château de la Motte-Chandonnier qui est dans la Vienne. Voilà, c'est des choses, des partenariats qui sont faits. Ils choisissent dans les variétés qui sont disponibles.
Comment, en fait, est-ce qu'on crée une nouvelle variété de roses? Comment ça se passe?
C'est un processus qui est assez long. Il faut 7 à 8 ans pour créer une nouvelle variété de roses. Et donc, on prend deux variétés existantes. On va définir la variété qui sera le mâle et la variété qui sera la femelle. Parce que la rose est hermaphrodite, donc elle porte les deux sexes. Et donc, après, on va faire une fécondation entre ces deux variétés. Et après, c'est beaucoup de patience. Il faut attendre, voir si on va avoir un fruit. De ce fruit, il y aura des graines. Les graines, elles vont être semées et ensuite, on aura une plante qui va arriver et au bout de quelques temps, elle fleurira. Et donc, si ça nous plaît, on continue avec cette rose et si ça ne nous plaît pas, on arrête. Et voilà. Et donc après, c'est tout ce temps de patience, de voir comment elle se comporte sur plusieurs années avant de pouvoir la commercialiser.
Qu'est-ce qui est le plus compliqué à gérer lorsqu'on s'occupe d'un tel lieu vivant? Je suppose qu'il faut faire avec les intempéries, avec le vivant et en même temps pouvoir faire vivre le lieu avec du public. Qu'est-ce qui est le plus compliqué?
Mais c'est ça en fait, la richesse c'est qu'on a des multiples activités sur un même lieu, donc en termes de visite, la vente de rosiers, la boutique, une partie restauration et également une partie réception, on peut accueillir pour des mariages, mais on reste toujours tributaire de Dame Météo. On travaille énormément et si on a un printemps qui est trop chaud ou trop pluvieux, et bien effectivement, ça peut ruiner en quelque sorte la floraison et donc l'attrait pour les visiteurs va pas être le même. Voilà. Donc c'est beaucoup de travail avec des périodes, des années où c'est très très court en termes de visite.
Et il y a aussi une boutique, un restaurant, une terrasse. Vous vous êtes retrouvé à la tête d'un véritable lieu d'activité. Combien est-ce que vous êtes en tout dans l'équipe à travailler sur place et qu'est-ce qui a pu rester ouvert? Qu'est-ce que vous avez pu conserver pendant cette année un peu particulière?
Alors, on va être pareil pour la haute saison. Vraiment, on est 4 à 5 personnes en boutique pour l'accueil, la restauration, la vente de plantes. Donc là, cette année, ça a été encore un peu compliqué, comme pour beaucoup. Le mois de novembre, on a dû fermer complètement l'établissement, alors que c'était la grande période pour la plantation des rosiers racines nues, donc la grande période de vente. Pendant l'hiver, on ferme nous tout le temps pendant 3 mois, où là, c'est du travail dans le jardin. Et après, au mois de mars, on rouvre. Là, c'est pareil, c'était un peu compliqué. On a pu ouvrir une partie, uniquement la vente de rosiers, mais pour l'instant, le reste n'est pas encore ouvert en termes de visite. Voilà, c'est pas encore possible.
En mai et juin, c'est-à-dire à peu près maintenant, en tout cas très bientôt, c'est la plus grande période de floraison de l'année. Est-ce que vous savez quand est-ce que vous allez pouvoir réouvrir et quand est-ce que les gens vont pouvoir venir découvrir tout ça ou est-ce que c'est encore un peu flou?
Ben, on a la date butoir du 19 mai, hein, où tous les commerces vont pouvoir rouvrir, donc c'est cette date-là. Après, on espère avoir la possibilité d'ouvrir plus tôt, étant donné qu'on est en plein air et que les parcs et jardins publics sont ouverts, que d'autres parcs et jardins de départements limitrophes ont la possibilité d'ouvrir. On espère bien avoir cette chance-là, nous aussi, surtout pour le week-end de l'Ascension.
Il y a aussi la fête des rosiers les 5 et 6 juin. Est-ce que vous prévoyez quelque chose de particulier ?
Alors là, c'est vraiment un marché aux rosiers, hein, où on va pouvoir donner plein de conseils pour planter des rosiers chez vous. D'habitude, il y a d'autres animations qui viennent se greffer. Là, c'est vrai qu'avec les protocoles sanitaires qui vont être mis en place, ça va nous limiter. Mais en tout cas, on sera très heureux d'accueillir tous nos visiteurs. Le marché aux rosiers aura bien lieu, lui, de son côté.
Alors ça, c'est assez marrant. Quelques chanceux peuvent également faire une balade en deux chevaux à travers le jardin le temps d'un week-end. D'où vous est venue cette idée ?
Alors, c'est une passion aussi pour les véhicules un peu anciens. Et donc, avec ce qui se faisait à Paris avec les deux chevaux, on s'est dit bah, pourquoi pas chez nous. Donc, on part de la Roseraie, on monte nos visiteurs. Et là, par contre, on les emmène plutôt à travers les champs de production. Donc, c'est une visite qui peut se passer en juillet et août, la période de floraison des rosiers dans les champs. Et donc là, on va expliquer comment on crée des variétés, la production. On offre un petit bouquet de roses aux participants et on revient à la roseraie. Ils peuvent visiter librement le parc, tout ça accompagné d'un petit cocktail à la rose pour clôturer cette visite assez insolite.
Oui, parce que vous produisez juste à côté du parc, à Douai-la-Fontaine également.
Oui, c'est ça, voilà. Nos champs sont sur Douai-la-Fontaine, oui.
Vous accueillez aussi des événements, vous avez un chapiteau, donc là on va parler des périodes normales. Pour des mariages ou des séminaires par exemple, vous avez beaucoup de demandes en temps normal ?
Alors, c'est une activité qui est assez récente, donc malheureusement elle a peu eu l'occasion de servir notre espace de réception. Voilà, on espère que ça puisse décanter dans les années à venir, mais en tout cas les événements qui ont déjà pu avoir lieu dans cet espace, ils vont adorer le côté champêtre, nature, mais en même temps de pouvoir profiter de l'extérieur, mais avoir un endroit assez sympa.
On invite alors les auditeurs et les auditrices à noter ça puisque c'est tout nouveau et s'ils ont envie de fêter leur mariage ou autre fête au milieu des roses, c'est plutôt le bon endroit pour ça. Merci beaucoup Floriane, j'invite donc aussi les visiteurs à venir visiter dès que ça réouvre. On se tient au courant par rapport à la date, en tout cas c'est le 19 mai au plus tard. Et je vous laisse peut-être partager le nom de votre site internet.
C'est leschemindelarose.com.
Et on peut acheter en ligne, il me semble.
Et après, nous avons la boutique en ligne qui est pétaledrose.com.
C'est parfait, c'est noté et on laisse tout le monde aller voir votre site et voir quand ça réouvre. On vous laisse retourner au jardin et merci beaucoup Floriane.
De retour dans la Covidienne, l'émission d'infos locales sur Radio Campus Angers. À l'instant, c'était le titre Rasputin's Mystics Frozen Appendage Part 1 and 2 de The Louvre Notes. J'espère que vous apprécierez mon accent anglais et vos gens à sa juste valeur. On passe à présent à l'entretien que Clémence a réalisé avec l'association Angers Jumelage afin d'en savoir un peu plus sur son fonctionnement.
Angers Jumelage, en bref, c'est la connexion entre les citoyens des différentes villes jumelles. Les villes jumelles, nous en avons 8. Nous en avons Osnabrück, Harlem, Wigan, Bamako, Austin, Toruń, Yantai. Ça fait donc 8 et après on a une ville partenaire, Sandro Tyler. Le carnet d'adresse est un outil qui permet aux angevins de participer au jumelage de par le canal de l'hospitalité. C'est un cadre que nous voudrons créer chez ceux qui reçoivent, nos amis des villes jumelles, pour un partage culturel, donc rapprocher les habitants. Nous nous sommes dit, pour mieux se connaître, c'est mieux de se retrouver dans les maisons pour partager les aspects culturels des différentes villes jumelles, que ce soit ceux qui viennent comme ceux qui sont trouvés ici, donc qui pourront partager la culture d'Angers, oui. En ce qui concerne les types d'activités, il faut dire que là, nous ne pourrons pas vraiment vous le dire avec précision. Mais une chose est sûre, l'exemple du carnet d'adresse, il s'applique lorsqu'il y a des événements culturels ou lorsque les habitants, donc les amis des villes jumelles, viennent sur Angers. Par exemple, s'il y a des Austin Days, ceux qui viennent d'Austin ou peut-être d'ailleurs des villes jumelles peuvent être accueillis par tous ceux qui ont adhéré au carnet d'adresse. Bien sûr, avec leur accord, parce que nous leur présentons les personnes qui viendront et selon leur, on va dire, leur préférence. Voilà. Comment on fait pour s'inscrire? C'est très facile. Nous vous envoyons donc une fiche d'adhésion. Nous vous envoyons aussi une charte, la description du projet. Après avoir pris connaissance, donc la description du projet, de la charte qui définit, le cadre de ces échanges. Et si vous n'êtes pas adhérent à l'association, vous donnez une participation de 5 euros minimum.
Alors Angers Jumelage existe depuis à peu près 30 ans. Donc les premières villes qui ont été jumelées, ça date de 1964 pour vous dire. Et donc c'était les villes de Haarlem aux Pays-Bas avec Osnabrück en Allemagne. Donc c'était les deux premières villes jumelles à Angers. Pour cette année, on n'a pas pu trop effectuer des cafés-cultures. Mais généralement, la cafés-cultures, c'est vraiment pour tout Angevin. Ils peuvent venir nous voir pour justement... Ben là, on a eu des cafés-cultures avec l'ambassadrice de Wigan, qui est venue donc, nous parler de Wigan. Donc des fois, c'est dans un lieu un petit peu insolite. Autrement, là, actuellement, on a aussi mis en place donc, plus des vidéos... conférences. On fait aussi des événements, par exemple, sur le thème de la francophonie. Donc là, on a fait une vidéoconférence sur le thème de la francophonie sur le bol d'air. Donc chacun donc, des pays, des villes jumelles, pouvait donc, s'inscrire par vidéoconférence et discuter un petit peu sur la définition du bol d'air, eux, ce qu'ils en pensent, ou dans leur langue, est-ce que ça existe à peu près les équivalences. Donc c'est une découverte aussi de langue et d'expression. Actuellement, on est en train aussi de préparer la fête de l'Europe avec la Maison de l'Europe le 15 mai, que je conseille vivement de vous inscrire pour qu'on puisse... effectuer, il y aura un grand jeu de pistes, donc ça sera intéressant.
Je voulais parler par rapport au projet Jumelage Accueil, que c'est un nouveau dispositif, c'est un nouveau projet qui touche tous les étudiants étrangers, mais les étudiants étrangers qui viennent de nos villes jumelles. Et le projet, c'est aussi de renforcer les liens entre les habitants de villes jumelles et les habitants d'Angers. Mais dans ce cas-là, c'est aussi de renforcer les liens avec les étudiants, avec les plus jeunes. Ce nouveau projet va aider aux étudiants à l'intégration à la société française, que normalement il y a beaucoup de différences parce que ce sont des cultures qui sont pas loin, mais en fait il y a des différences, il y a des grandes différences. Donc le nouveau projet ça aidera aux étudiants à comprendre un petit peu mieux la culture française.
Alors aussi, on a donc un projet qui c'est assez régulier, c'est dans le cadre du Festival de la chanson française à Toulon, qui est très important. Donc actuellement, nous faisons appel donc, à des artistes amateurs qui chantent en français. Donc il nous faudrait un enregistrement de 5 chansons en français minimum. Donc il faut que les personnes soient majeures et qui parlent anglais ou polonais, et suite donc à cette sélection, la personne ou bien les personnes, deux ou trois, partiraient donc au festival à Toulon de la chanson française pour justement représenter la France et Angers.
Merci à Sarah et Clémence de nous avoir proposé ces deux contenus. Vous pouvez retrouver les Chemins de la Rose et l'asso Angers Jumelage sur les réseaux sociaux. Il est à présent l'heure de nous quitter au programme ce soir sur Radio Campus Angers. D'abord le coureur de funk, puis votre émission sportive avec Ta Gueule Coubertin de 20h à 21h, et enfin du hip-hop avec Scratch Fellaz et La Mine de 22h à minuit. On se retrouve demain à 18h pour la dernière Covidienne de la semaine. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. À bientôt. Thank you.